les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Était-il, à la fin du siècle dernier, de nouveaux Russes ou d'anciens Soviétiques ? Quoi qu'il en soit, ils étaient arrivés en France, peuple russe en exil. Je me sens étrangère en Russie, malheureuse en France. Ce que l'on perd en partant de chez soi, on ne le retrouve pas ailleurs, regrettait l'une des Russes rencontrées en région parisienne. Tous les intervenants des Nuits Magnétiques qui suivent ne partageaient pas ce point de vue. Mais souvent, l'ironie pouvait dissimuler la tristesse. Et qu'en est-il du petit verre de vodka posé sur une tombe ? Nuit Magnétique, loin de Moscou, une toute petite patrie, les miettes de l'Empire, première diffusion sur France Culture le 29 juillet 1999.
Nuit Magnétique, Dobry Vecher.
Il y a des personnalités parmi celles-ci qui t'intéressent dans le cimetière. Toi, la petite soviétique. Il y a les métropolites Euloges, des archevêques, des archiprêtres, mais tout ça, ça t'intéresse pas.
Et non, athée comme je suis. On peut voir les Romanov ici. Nureyev.
Nureyev, tu veux aller voir ?
Ça m'intéresse beaucoup. Hein.
Et Tarkovsky, tu le connais ?
Oui, bien sûr. Tu l'as vu ?
Mais Krassov,
il est encore ici ? Ça, je savais pas.
Et Bounine, il était connu, enfin c'est quelqu'un qu'on disait.
Ouais.
Loin de Moscou, une toute petite patrie. Irène Berelovitch, Véronique Lamandour. Aujourd'hui, les miettes de l'Empire. La première photo qui fut prise de l'église de Sainte-Geneviève-des-Bois montre des bottes de paille à côté du porche. Il n'y a pas encore de tombe et l'on pourrait se croire dans un coin de la campagne russe. Aujourd'hui, pour y arriver, il faut emprunter la nationale, longée d'interminables zones commerciales, un terrain de sport, des pavillons anonymes. Mais une fois franchi le mur du cimetière, on peut presque oublier les ravages infligés au monde alentour par la modernité.
Je crois que c'est des Russes, les touristes, là, est-ce que tu peux voir ?
Ah oui ?
Извините, les touristes ici ?
Да. Из Украины.
Oui, il vient d'Ukraine.
Mais vous êtes russe ?
Non, vous êtes russe, il est украинцы.
Это не имеет значения. Мы можем украинцами и русскими быть.
У нас, например, отец украинец, мать русская. Какие мы? Кто мы?
Ça n'a pas beaucoup d'importance, cette question. Par exemple, moi, j'ai une mère russe et un père ukrainien. Qui est-ce que je suis? Nous habitons en Ukraine, nous parlons russe.
Nous sommes français.
Est-ce que ça ressemble à un cimetière de chez vous, ici?
Да, похоже. Березы напоминают наши березы.
Сосна, береза.
Да.
Туя.
Les bouleaux, ça ressemble beaucoup. Les pins, c'est pareil, c'est comme en Russie.
Мы сочувствуем и скорбим за то, что наш народ, много нашего народа здесь умерло в эмиграции.
On regrette beaucoup qu'il y a beaucoup de Russes qui sont morts ici en immigration, loin de leur pays.
Pourquoi vous pensez qu'ils sont malheureux d'être morts ici?
Vous считаете, что они несчастны были от того, что они умерли здесь?
Ну, каждого своя судьба, но есть родина.
Chacun a son destin, mais la patrie, elle est la seule et pour toute une vie.
Et vous pensez pas qu'on peut se faire des patries d'adoption?
Никогда. Родина. Вот мы тут уже сколько дней?
7 дней,
а домой хочется.
Nous sommes ici depuis 7 jours et nous avons envie de rentrer en Russie très rapidement. On en a marre. La nation qui ne se souvient pas de son passé, il n'a pas d'avenir. Et c'est pour ça que nous sommes ici.
Merci.
Merci.
Bonne promenade. Et bon retour alors, monsieur.
Счастливого возвращения.
Je me souviens des cités qui s'étendaient au bord du Dniepr, dominées par la hideuse déesse de l'amitié entre les peuples. Cadeau empoisonné de la Grande Russie aux petits frères ukrainiens, érigé de telle sorte qu'il n'est presque pas un point de la ville d'où on ne puisse l'apercevoir. N'était cette menaçante présence et la proximité du fleuve partiellement gelé, immeubles et cages d'escalier auraient été les mêmes que ceux de nos banlieues, un peu plus vétustes, un peu plus déglingués, mais témoignant du même mépris à l'égard de ceux qui y vivent. Je me souviens de ma première nuit à l'hôtel Drujba, ce qui signifie « amitié » en russe, où, dans la lumière verdâtre de la lampe de chevet, j'écoutais longtemps le vrombissement des voitures sur la quatre voies toute proche, en me demandant si j'allais parvenir désormais à vivre là. Alors je me dis qu'Alexandre, dit Sacha, n'a pas dû être tellement dépaysé quand il a posé sa valise dans sa chambre numérotée, au foyer de France Terre d'Asile, cité du chemin vers des Mèches, à Créteil.
Je suis dans ce foyer depuis 3 mois.
Et depuis 3 semaines, il y a un petit bébé qui vient d'y naître.
Да, мы в этом общежитии именно для того, чтобы родить ребенка, а потом нас переведут куда-то в другой город.
Bah, nous sommes ici exactement à cause de la naissance de notre bébé, et après on va être transféré dans une autre ville.
C'est une petite fille ou un petit garçon?
Un garçon.
Comment il s'appelle?
Maxime.
Sacha, il y a une raison pour laquelle vous avez choisi d'être en... Enfin, vous êtes venu en France, je ne sais pas si vous avez choisi, mais... Il y a une raison pour laquelle c'était plutôt la France que qu'un autre pays.
Причина была в том, что мне нужно было покинуть страну обязательно.
Au début, je suis partie sous la menace pour ma vie et je suis venue ici uniquement parce que ma sœur vit en France et elle m'a fait une invitation. Et je suis venue uniquement pour quelques mois, mais après la situation a changé et je ne pouvais plus retourner. C'est à cause de ça que je suis obligée de rester en France maintenant. J'ai profité évidemment de la gentillesse de ma sœur qui m'a amené visiter Paris et le banlieue. Et c'est vrai que c'est un pays magnifique qui me plaît beaucoup. Ce qui me plaît particulièrement, c'est le ciel. Je trouve qu'il est très beau en France.
Vous avez quel âge, Sacha?
J'ai 36 ans.
Donc... Bon, vous avez quand même grandi en Union soviétique et puis ensuite les choses ont complètement changé. Vous vous êtes adapté comment à tous ces changements?
Ну, я всю жизнь был реалистом. Я родился в золотой век, можно сказать,
Je suis conscient que j'étais né à l'époque de l'âge d'or de l'Union soviétique, c'était l'arrivée au pouvoir de Brejnev, quand dans les magasins on pouvait acheter tout. Les gens, ils ont commencé à vivre dans une société de consommation, ce qu'on peut appeler une société de consommation. Ils pouvaient acheter des voitures, ils pouvaient acheter beaucoup d'autres biens, et c'était différent après... la guerre, après toutes les épreuves que le pays a vécues auparavant, c'était vraiment quelque chose de très différent. C'était vraiment l'âge de bien-être soviétique. Et finalement, vers les années 80, la situation a changé et il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Et je pense que c'était à cause du fait que l'Union soviétique participait activement dans la construction du socialisme dans le monde. Et ils dépensaient beaucoup d'argent pour envoyer les produits dans les pays d'Afrique ou dans les pays d'Amérique latine. Et c'est à cause de ça que ses propres citoyens étaient obligés d'éprouver certains carences, certains manques de produits.
Et il y a quelque temps... смотрел на эту всю жизнь, я все-таки делал анализ.
Ситуацию, школе, et je faisais la comparaison entre ce que nous enseignait à l'école et entre ce qui se passait en réalité. Et j'essayais de faire mes propres conclusions et de trouver ma propre voie dans la vie et qui soit différente de ce que la propagande soviétique essayait de nous inculquer. J'ai changé beaucoup de métier, j'ai voyagé beaucoup en ex-Union soviétique et je trouve que la situation elle s'est aggravée, elle a beaucoup changé depuis la destruction, la disparition de l'Union soviétique. À l'origine, j'étais un cuisinier, d'ailleurs, je ne voulais pas au début, mais c'était un de mes amis qui m'a poussé de faire les études de cuisine. Finalement, ça m'a beaucoup plu. Mais après, j'ai changé beaucoup de métier pour une seule raison, de trouver quelque chose qui peut m'apporter de l'argent. Même si à l'époque soviétique, c'était mal vu, on disait que c'était vraiment petit bourgeois de chercher du profit, de chercher de gagner de l'argent. On devait travailler uniquement pour son pays, pour son peuple. Pour moi, c'était toujours différent. Je voulais juste gagner de l'argent pour entretenir ma famille.
Vous avez eu de l'espoir quand est arrivé Gorbatchev et la perestroïka. Est-ce que c'était une période plutôt heureuse au Kazakhstan ou est-ce qu'on s'en fichait totalement de ce qui se passait à Moscou?
Он вызвал очень большие надежды моего отца, так как он...
La seule personne qui est dans mon entourage qui a eu vraiment quelques espoirs, c'était mon père, qui était un communiste fervent. D'ailleurs, on a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Mais pour moi, tout ce qui s'est passé pendant le temps de Perestroïka était complètement ridicule. Par exemple, quand les membres de Politburo commençaient à s'adresser l'un à l'autre par leur prénom, comme par exemple le fameux « Boris, tu n'as pas raison », ce qu'a Gorbatchev dit à Boris Yeltsin à l'époque. Mais... Pour moi, c'était vraiment un os quand j'étais au peuple pour qu'il se taise. Ce n'était qu'une apparence.
Et maintenant, vous vous sentez soviétique ou kazakh ou russe ou вам вообще все равно?
Нет, казахом я себя никогда не чувствовала. Я все время был русским.
Je ne me suis jamais considérée comme un kazakh. Je me sentais toujours russe. Même à l'époque où, quand je vivais à Kazakhstan, on regardait toujours la Russie, même si Kazakhstan c'était dans quelque sorte notre patrie. Mais à l'origine, on était chassés de la Russie, les grands-parents de ma femme et les miens, ils ont perdu tous leurs biens pendant la collectivisation soviétique. Ils étaient renvoyés pour vivre en Asie centrale sans droit de retour. Et c'est pour ça qu'on se sentait un peu étranger au Kazakhstan sans pour autant appartenir à la Russie qui ne voulait pas de nous non plus.
Alors nous on s'est connus en Ukraine quand... Toi, tu t'allais partir parce que tu allais te marier. Et j'ai du mal à imaginer comment les 20 dernières années sont passées pour quelqu'un comme toi qui, tu vois, entre tes 15 ans et tes 30 ans, comment tu as passé le temps.
Oui, je me souviens que l'autre fois, quand j'avais 12 ans, 11 ans, je pense, avec une copine, on est rentrés de l'école et on a lu Pionierskaya Pravda, c'est la vérité des pionniers, un journal propagandiste pour les enfants, en fait. Et on était très impressionnés. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est bien qu'on n'ait pas né aux États-Unis. Quel bonheur qu'on est né aux Union soviétique où tout se passe bien. Donc, c'est pour dire que jusqu'à l'âge peut-être des 14 ans, qu'on commence à vraiment mettre en cause tout ce qu'on voit et réfléchir tout ce qui est autour. On était, je crois, les sages pionniers soviétiques, sauf que j'étais quand même toujours marquée par l'histoire de la famille, parce que toute la famille de ma grand-mère était morte pendant le génocide, la famine organisée de 33. Et je savais toujours ça, et c'est marqué beaucoup, beaucoup la grand-mère. Elle parlait peu de ça, mais Il y avait parfois les phrases comme par exemple « Le pouvoir soviétique, il n'a rien de sacré ». J'étais très étonnée pourquoi elle dit ça. Ou que les communistes, de toute façon, ils n'ont pas de conscience. Moi, je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle dit, ma grand-mère ? Pourquoi elle dit les choses pareilles ?» Mais c'est vrai que sans réfléchir à l'époque de cette question-là, il y a quelque chose qui se retient. Encore, des mêmes raisons, mon père, elle n'était jamais, par exemple, le membre du Parti communiste. Elle n'était pas le résistant ni le dissident, mais il s'est débrouillé pour ne jamais y rentrer, étant le journaliste, le rédacteur en chef adjoint, même, parce que, justement, pour commémorer le souvenir de ses grands-parents. Donc, il y avait cette forte culture de non-appartenance tout simplement à l'élite politique qui gérait le pays. Sinon, il y avait toujours cette rêve ukrainienne d'un pays prospère. Et par exemple, ça, ma grand-mère disait ça se cachait. Elle disait toujours que si l'Ukraine devient indépendante, elle sera riche. Et quand l'Ukraine est devenue indépendante, tout le monde attendait avec les yeux ouverts quand ce jour viendra, demain ou après-demain, quand on sera déjà riche. Et en regardant plutôt le ciel, en attendant le pléiador, mais c'est jamais tombé. Donc ça aussi, c'est renforcé peut-être, je ne sais pas comment c'est passé à Moscou, mais pour les anciennes colonies, je pense que c'était aussi, bon, pour les pays baltes, pour nous, c'était aussi un peu l'espoir de vivre autrement, de ne pas avoir la possibilité de développer la culture, la langue, bon, de revoir l'histoire honnêtement, et pas comme c'était décrit dans les manuels soviétiques.
Attends, je ne sais pas si c'est très bien que Bogdan il mange le fil du micro parce qu'il n'est pas très propre. Mais c'est pas pour le...
Attends, je vais lui donner son bouchon. Il était quelque part.
Je me souviens des boîtes de nuit tapageuses et des gorilles patibulaires en attente devant des Mercedes aux vitres teintées. Et aussi des deux hommes d'affaires russes sur une ligne locale d'Air Ukraine qui commandaient bruyamment du Savietskoye Champagneskoye en brandissant une énorme liasse de dollars. Je me souviens des files de petits vieux aux sorties du métro, patientant des heures dans le froid, dans l'espoir de vendre leurs pauvres marchandises, cartouches de cigarettes, pirojki graisseux et une fois même un unique vieux à renfumer. Ce sont les nouveaux et les anciens russes. Les premiers forment aujourd'hui une troisième vague d'émigrés un peu particuliers, de quelques centaines de privilégiés qui installent femmes et enfants dans de luxueux appartements parisiens ou une villa sur la Côte d'Azur et continuent de faire leurs affaires au pays.
Bon, bah, à la vôtre.
À la vôtre.
Est-ce qu'on peut trinquer de l'eau ?
On n'est jamais deux fois, hein. Le métier de russe, hein. On ne peut jamais trinquer deux fois. Sinon, on risque de ne pas se voir le toast se réaliser.
Alors, Cyril Roubinski, dans ce restaurant plutôt chic du quartier de l'Opéra où vous travaillez, vous êtes un habitué manifestement. On peut dire que vous êtes comparativement un nouveau russe de Paris.
Non, moi je ne dirais pas ça. En fait, le concept de nouveau russe a été, élaboré pendant les 5-6 dernières années. Et effectivement, je ne pense pas vraiment, vu comment elle est présentée, correspondre parfaitement à l'image de nouveau russe telle que, je dirais, les gens le perçoivent en France, enfin en Occident plus en général.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que peut-être qu'il y a quelques Occidentaux qui ne savent pas ce que c'est qu'un nouveau russe.
Un nouveau russe, c'est une personne venant effectivement de Russie avec pas mal de moyens en cash qu'il exhibe de façon quelque peu vulgaire souvent dans les boutiques de luxe parisiennes et les hôtels haut de gamme à Paris et sur la Côte d'Azur. Et donc, en général, ce sont des gens qui ont fait fortune dans les dernières années, c'est-à-dire après la libéralisation du régime au début des années 90.
Et vous n'avez pas fait fortune ?
Pour ça, il fallait sans doute passer davantage de temps en Russie. Effectivement, dans cette période, moi je suis en France depuis les années 90, donc justement la période dans laquelle les grandes fortunes se sont créées, là où effectivement il y avait des opportunités quelque peu exceptionnelles en Russie pour s'enrichir, créer des sociétés, donc faire de l'argent.
Et là vous travaillez au Crédit Lyonnais, vous n'êtes pas un nouveau russe, alors est-ce que vous êtes un ancien soviétique ?
Absolument. Là, par contre, je peux, je dirais, souscrire sous ce terme ou cette appellation, puisque effectivement, j'ai reçu mon éducation en Russie, enfin en Union soviétique, même si par hasard des choses, j'ai passé quelques années de mon licence en France. J'étais toujours dans une école soviétique, à l'ambassade soviétique. Donc, je crois effectivement pouvoir justifier de l'appellation ancien soviétique.
Vous y avez cru, vous, aux idéaux professés par le régime, ou vous êtes arrivé à un moment où c'était déjà vraiment difficile d'avoir une quelconque croyance là-dedans ?
Enfin, dire que j'en ai pas cru, ce serait sans doute ne pas dire de la vérité. À certaines mesures, c'est clair que la propagande, même dans les années 80, malgré le fait qu'il a fortement faibli et devenu plus cynique, quelque part, je dirais, plus ridicule, parce que manque d'arguments, arriver à convaincre les gens du bien fondé du régime, même si en profond de soi, les gens croyaient à peine à 10% ce que leur disait la propagande officielle, mais avaient, gardent d'ailleurs, une certaine méfiance à l'égard de l'Occident, et donc se présentent comme, je dirais, des représentants du monde alternatif.
J'arrive pas à imaginer comment c'est d'être dans un système dans lequel on croit pas et en même temps qu'on respecte, enfin, c'est-à-dire dont on peut pas contester le bien fondé officiellement.
Oui, c'était, si tu veux, par exemple, il y a les façons de faire qui étaient accessibles. Par exemple, quand il y avait les sobotniks, les samedis rouges, il fallait y venir, même si tu crois pas aux valeurs de travail gratuit. Mais si tu viens pas, tu n'as plus de bourse. Bon, c'est un peu gênant. On se fait entretenir par les parents. Mais par contre, tu viens, tu fais quelque chose et tu pars. Mais par contre, il y avait les gens, par exemple, qui, à la fin de ça, disaient « Vous vous souvenez comment tout le monde avait les yeux heureux ?» Ça, c'était déjà le mauvais ton, parce que personne n'avait les yeux heureux et c'était un peu exagéré. Donc, c'était voulu par les communistes, mais quand même, jamais existé. Et donc, il y avait les participations par force, parce que, si tu veux, il y avait les gens courageux qui ont choisi d'être les décidants, de ne pas travailler pour le système soviétique, d'aller au goulag et tout ça, mais c'était peut-être les choisis ou vraiment les exceptions. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui participait à peine. Je veux dire que leur résistance, c'était ne pas participer vraiment, quoi.
Là, tout autour, le château, tout est habité.
Oui, tout est habité. Oui.
Que par des riches, j'ai vu sur les boîtes aux lettres, il n'y a que des noms russes.
Oui, mais il y a une seule famille portugaise, ouais. Et les autres sont russes. À peu près 70 personnes.
70 dans toutes les petites corps, oui, de bâtiments.
Oui.
Si vous préférez parler russe, puisque Olga est là, c'est comme vous préférez, quoi.
Plus loin encore que Sainte-Geneviève-des-Bois, au bout d'une autre nationale, il y a le château du Moulin de Senlis, à Montgeron, petit morceau de Russie cerné par les rugissements de la voie ferrée et du terrain d'aviation tout proche.
Для того, чтобы после войны здесь устроить без призорных детей.
Au début, ce château a été racheté par la veuve de Nobel pour faire un orphelinat.
тех, в общем, русских, которые войну там погибли, куда-то пропали.
Orphelinat pour les enfants des Russes qui sont disparus pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est un большой парк, вот, где у нас играют дети, где мы делаем шашлыки периодически.
Il y a un grand parc ici où les enfants peuvent jouer et où on fait souvent les petites grillades.
И, в общем, ну, более-менее мирно существуем, за исключением тех случаев, когда у нас маленькие стычки бывают с людьми такого уголовного какого-то прошлого, который тоже присутствует здесь, конечно. Так что у нас полнота русского существования здесь есть. Все слои общества представлены.
Normalement, nous avons une existence paisible, mais il arrive des fois qu'on a quelques conflits avec des gens qui viennent des milieux criminels, parce que finalement, ici, nous avons toutes les couches sociales qui sont représentées.
Этот человек, он бывший, только сейчас не переводил, он такой бывший этот самый коммунист такой, из Каунаса такой. И он такой упертый человек, очень конфликтный.
On va attendre un peu qu'ils sont passés pour faire la traduction. Добрый день.
Voilà,
monsieur en charge.
Il y a un monsieur qui passe, c'est un communiste fervent qui vient de Kaunas. Kaunas, c'est une ville en Lituanie et qui est quelqu'un de très difficile avec qui on a parfois des tensions.
Voilà, vous avez le train qui passe tout près derrière.
Mais les bruits qu'ils font, c'est beaucoup moins qu'on est habitué en Russie. Jolie magnolia ici, c'est les rosières.
Oui, les rosières.
Et les fils à linge, c'est les fils à linge de tout le monde ou chacun?
Non, c'est quelques appartements qui n'ont pas beaucoup d'appartements.
L'espace.
Это... Нет, это не страшно. Есть здесь некоторые картины, которые я еще из Москвы привез. Я из Москвы.
Il y a une partie de tableau que j'ai ramené de Moscou, parce que moi-même je viens de Moscou.
И много здесь нарисовал всяких. И много посвященных нашему вот Монжерону, нашему здесь замку.
Il y a pas mal de tableaux que j'ai fait ici. Il y en a pas mal qui sont consacrés au Monjeron, au château de Monjeron.
Вот, то есть все-таки живут своим старым миром, в общем, все, что как бы у них было.
En gros, tout le monde vit à la mode ancienne, comme s'il était toujours dans le monde ancien.
Le monde ancien, c'est quoi?
Ну, это, в общем, тот мир, в котором жили, как бы, ну, не в смысле работы, это кто-то на стройке там работал,
еще где-то, а в смысле
уличейник, там,
ходили в кино, там, развлекались, там, подругами, шутки делали, то есть такое, как бы, что это такое русско-советское, да, cinéma, les livres,
здесь очень много, допустим,
русских фишечки, les barbecues, les choses comme ça, c'est cette mode de vie qu'on a ramené ici avec nous. Et c'est, oui, on peut dire russe, on peut dire soviétique, parce qu'ici, il y a pas mal de Russes qui viennent de l'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'autres pays baltes ou pays de l'Asie centrale. Mais moi, je me souviens, à mon époque, c'était évidemment pas l'époque de Staline, où le régime était déjà un peu plus laxiste, mais on avait des relations humaines beaucoup plus chaleureuses, et moi, j'ai un souvenir très agréable.
Vitaly, vous avez essayé de rentrer dans les milieux de l'art français ici?
Да, в общем, да, но это безрезультатно. Это
oui.
Тоже такая маленькая.
J'ai fait quelques tentatives pour entrer dans ce milieu, mais je trouve assez fермé, c'est comme une petite mafia, en commençant par l'association de peintres ici à Monjeron et sur tous les autres niveaux, c'est un petit monde fermé.
Et c'est une question indiscrète, mais comment vous vivez ici depuis que vous êtes en France, parce que la vie a l'air douce dans le moulin? Mais en même temps, il faut bien vivre, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites?
Oui, j'ai quelques occupations pour survivre.
Такое существование, как в России, в общем, инженер на 120 рублей, и больше я не получу, да?
Parmi les gens que je connais, il y a très peu de gens qui sont vraiment réussis, qui ont fait des fortunes. Et la majorité des autres Russes, ils mènent la même vie qu'ils menaient à l'Union soviétique à l'époque des années 80, avec 120 roubles de salaire, une petite vie modeste. Thank you.
la solidarité qu'il y avait avant. Tu sentais cette solidarité?
Je crois que c'est plutôt assez slave, parce que maintenant, ça existe toujours. Je vois que les gens s'entraident parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'arriveront pas à survivre. Il faut toujours faire appel aux gens, même si on ne les aime pas trop, mais on les supporte parce qu'ils le font. Et c'est la façon de vivre. Et là, maintenant, quand même la grande partie de la population s'est appauvrie beaucoup, ça joue encore peut-être le rôle encore plus important, parce que je vois que le voisin, par exemple, il revient de la campagne, il amène un gros sac de même pommes de terre ou des choux, il donne aux vieilles dames dans la cage d'escalier qui ont une retraite de 35 $, c'est à mourir, quoi. Donc c'est assez typique pour la culture, parce que chez nous, on refuse beaucoup. C'est très difficile de refuser un service. Les gens, quand on demande des services, ils sont quasiment sûrs de recevoir l'accord d'une personne à qui on s'adresse. Et ce qui m'a frappé beaucoup ici quand je suis venue, qu'on dit facilement non. Par exemple, on demande quelque chose et personne ne se vexe. Il n'y a pas de catastrophe après, il n'y a pas d'amitiés écrasées pour toujours parce que quelqu'un ne voulait pas aller boire le café ensemble ou je ne sais pas quoi. Bon, j'exagère, mais il y a cet élément très culturel qui nous diffère peut-être. Parfois, je me demande, est-ce que si jamais les gens deviennent riches chez moi, est-ce qu'ils vont garder la même solidarité ou pas? Parce que maintenant, ils sont indispensables l'un pour l'autre. Mais un jour, quand ils ne seront plus indispensables, est-ce que la mode de vie restera pareille? Mais je n'ai pas de réponse.
Galina, ici on est sous les marronniers du jardin du Port-Royal, tout près de l'Institut d'études slaves, rue Michelet, où vous avez travaillé. Et vous, vous n'êtes pas du tout née à Paris, vous êtes une pétersbourgeoise.
Oui, mais quand même maintenant je suis parisienne, je suis française d'origine russe, ma fille aussi, et j'ai en France depuis 9 ans. C'est la Paris, c'est mon ville natale, deuxième ma ville natale après Saint-Pétersbourg.
Bonjour Bridget, on va peut-être parler russe si vous voulez. Oui. Parce que même si c'est votre ville natale, je crois que vous êtes plus à l'aise en russe.
Ah, ça bien sûr, parce que la langue maternelle c'est toujours... Oh, je commençais encore en français. Pierre Véras,
la première fois que je suis venue, c'était en 1989. J'avais été invitée alors que je travaillais à l'université à Saint-Pétersbourg. Avant cela, je n'avais pas été autorisée à sortir du pays parce que mon père avait été déporté. Il est mort en prison, au camp. Je ne connais ni la date, ni le lieu. Et les gens comme moi, les enfants des ennemis du régime, étaient sous surveillance en permanence. J'ai toujours travaillé dans la mesure du possible avec des gens de l'extérieur. J'étais en contact, par exemple, avec des organisations de l'immigration russe en France, les Vitiazi, des gens qui étaient désireux de connaître leur patrie d'origine. Certains sont venus pour la première fois en Russie et je leur ai montré Saint-Pétersbourg, les itinéraires de Dostoïevski dans la ville, les excursions historiques. Ils nous envoyaient aussi des livres et ça, à aucun moment, je ne m'étais dit que cela pouvait poser un problème. Mais par la suite, Valodia Polish, un homme qui travaillait avec moi à la Bibliothèque des sciences et qui avait aussi stocké certains de ses livres, notamment des ouvrages religieux, a été tout simplement arrêté. Moi, j'ai simplement perdu mon travail, mais je n'ai pas subi des choses aussi dures.
J'ai un problème avec les chiffres. Ça fait quoi en français?
1979.
Et Галина, ваш... Отец, вы знаете, зачем он был арестован? Вы savez pourquoi votre père a été arrêté, oui. Lui?
Это был accident на заводе.
Il y avait eu un accident à l'usine. Il était ingénieur et après cet accident, on l'a tout de suite arrêté. Moi, je l'ai vu en prison. Je n'avais que 3 ans à l'époque, mais je m'en souviens très bien. Et après, je ne l'ai plus jamais revu. C'était quand?
C'était 53 года. Мне было 3 года.
C'était en 1953, oui, j'avais 3 ans. Après, j'ai jamais rien su de mon père. Et après, dans les dossiers, ça me suivait partout. Il fallait toujours écrire que j'étais la fille d'un déporté, au Komsomol, à l'école, etc. Les enfants ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, moi non plus d'ailleurs. Mais plus tard, à mon adolescence, un jour, quand j'ai voulu partir avec les autres pour un voyage en Yougoslavie, c'est directement le KGB qui a informé moi et ma mère qu'on ne pouvait pas partir. Voilà le genre de vie que j'avais.
Это было трудно и в начале, и это трудно сейчас.
En arrivant ici, c'était dur au début et c'est toujours dur aujourd'hui. Parce que nous, les Russes, on s'est habitués à ce qu'il y ait toujours quelqu'un à côté de nous qui nous vienne en aide. Ici, les gens vivent de façon très étrange et solitaire. Si quelqu'un, par exemple, perd son travail, voilà, il est tout seul et il affronte l'angoisse tout seul. Vous savez, les Russes, ils risquaient leur vie et pourtant, ils vous aidaient quand même. C'était la notion de don qui était très importante. Ici, si on donne quelque chose, c'est plutôt pour de l'argent et c'est toujours difficile.
Quand même, c'était différent des manières de vivre. Et c'est différent d'esprit. C'est pour les Russes, c'est étrange, de temps en temps, la vie française. Je ne sais pas, moi, je ne pense pas. Ma fille aussi, elle est plutôt maintenant en française qu'en russe. Hein. Dommage. Elle parle bien en russe. Mais cet esprit, j'ai vu ma fille échanger, elle était commençait plus réservée. Il ne veut pas aider pour la personne. J'ai dit, tu commences comme française, égoïste. Je suis désolée, mais c'était comme ça.
Et quand vous retournez en Russie, quand vous vous возвращаете в Россию, как вы чувствуете, comment vous vous sentez?
Когда я возвращаюсь в Россию,
quand je reviens en Russie, je me sens aussi très mal.
Россия и люди русские,
la Russie et les Russes ont énormément changé.
Ну, говорят, что это капитализм, но это
капитализм, on dit que c'est le capitalisme, mais c'est un drôle de capitalisme, il me semble.
Там, люди,
là-bas, maintenant, les gens ont cessé de se faire confiance.
Одни очень разбогатели,
certains sont énormément enrichis et les autres vivent dans la misère. Et la solidarité, surtout entre les gens, elle s'est complètement désagrégée.
Vous vous sentez étrangère là-bas?
Oui. Я чувствую себя иностранкой в России.
Je me sens une étrangère en Russie. Parce que je crois que nous avons perdu l'idéal pour lequel nous nous battions et que nous gardions toujours au cœur.
Да, я иностранка в России.
Oui, je suis une étrangère en Russie. Malheureusement, je suis une étrangère en France et je suis une étrangère en Russie. Mais voilà ce que ressentent tous les émigrés du monde. Ce qu'on perd en partant de chez soi, on ne le retrouvera pas ailleurs.
Est-ce que tu avais une image forcément sceptique ou sceptique surtout, ou est-ce que quand même les valeurs de liberté, fraternité, les valeurs du communisme, finalement, c'était aussi des choses qui te racontaient à toi, jeune fille, tu y croyais ou ça te faisait vibrer? Il y avait des choses qu'on t'apprenait à l'école que tu croyais quand même ou qui t'émouvaient?
Je pense que ce que nous émouvait à l'école, c'est peut-être les histoires glorieuses de... deux guerres, de la première et de la deuxième guerre mondiale, de la participation des compatriotes là-bas, d'actions héroïques, des héros. Ça, c'est sûr que c'est toujours peut-être... ça donne un certain sentiment d'appartenance à la même nation, ou si on peut parler de nation soviétique, ou ukrainienne, ou russe, mais une certaine grande unité de gens qui ont vécu ça et... avoir parmi ses grands-parents ou les gens qui ont passé les guerres. Donc ça, c'est sûr que c'était le sujet sacré. On a plaisanté pas, on croyait à ça. Et en fait, c'était respecté. Pardon. Par contre, tout ce qui était notre avenir communiste, quand c'était assez flou et je pense que il y avait très peu de gens qui en croyaient au fond, je pense. Et je pense que l'esprit critique, il était toujours présent. Il n'était jamais présent ouvertement. Il était un peu caché. C'est pour ça qu'il y avait tant d'anecdotes, en fait. Quand je suis venue ici, on comprend le mot anecdote tout à fait différent que chez nous.
Je crois que chez nous, ça veut dire anecdote, c'est une blague.
Une blague, mais souvent, c'est aussi quelque chose caché qui se termine de façon inattendue. C'est une façon de dire un peu figurale, en fait, aussi. Bon, il y a les différents, mais souvent, il y avait... Je me souviens d'anecdotes de l'Union soviétique, par exemple. Karl Marx, il avait le travail qui s'appelait... Ou Lénine, quelqu'un d'eux. 5 contradictions de capitalisme. Et après, il y avait donc aussi une plaisanterie, comme vous dites, 5 contradictions de socialisme. C'est donc la première, c'est que personne ne fait rien, mais les plans sont toujours remplis. La deuxième, c'est les plans sont toujours remplis, mais il n'y en a rien dans les magasins. Troisième, il n'y en a rien dans les magasins, mais chez les gens, on peut trouver tout. Quatrième, chez les gens, on peut trouver tout, mais tout le monde est mécontent. Et cinquième, tout le monde est mécontent, mais tout le monde vote pour. Donc, tu vois, on mettait un peu d'ironie pour cacher la tristesse, je pense.
Olga, tu disais que quand, même toi en Biélorussie, même dans le régime soviétique, on va tous les ans à Pâques pour festoyer avec les défunts, mais c'est pourquoi ? Tu sais ça ?
Je ne sais pas si c'était vraiment un rite païen qui est resté ou si c'est lié à la foi orthodoxe, mais c'est vrai qu'on appelle ça le jour quand on se souvient des morts.
Et qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit ces jours-là?
Qu'est-ce qu'on boit? On boit comme d'habitude un peu de vodka et on laisse toujours un petit verre de vodka sur la tombe, même en partant. Et on mange, comme ça se passe souvent autour du Pâques, on laisse les œufs du Pâques, les œufs rouges. Chacun, en gros, chacun apporte ce qu'il veut et il laisse toujours une petite assiette avec le repas aussi. Pour nourrir l'âme de défunt.
Je me souviens de la gigantesque fonctionnaire en robe violette, le jour du mariage de mon ami Alain, qui présidait avec gravité une cérémonie étrange. Tandis que la sono de la maison municipale des mariés massacrait en sourdine les parapluies de Cherbourg, elle élevait au-dessus des futurs époux et du petit groupe ému de leurs invités ses longs bras drapés de nylon en murmurant une incantation réglementaire d'un ton solennel de prêtresse. Dehors, la neige tombait à gros flocons et nous étions heureux d'être là.
C'était pas possible de voyager, c'était... je sais pas, pour faire un simple voyage en Tchécoslovaquie, par exemple, il fallait avoir tant de caractéristiques signées par un chef de Komsomol de ta promotion, après de l'université, après de ton arrondissement, après je sais pas quoi. À chaque fois, il faut venir à l'entretien et raconter que tu vas jamais dire du mal de l'Union soviétique, promettre de ne pas rester là-bas. Bon, bref, tant de choses humiliantes pour un tout petit voyage de 5 jours chez les voisins, en fait. Sans parler de la France et des États-Unis. Donc les gens ne pouvaient pas comparer, ils ne pouvaient pas voir le monde. Et peut-être c'est pour ça qu'on les aimait tellement. C'était la vraie subculture, c'est la lecture un peu alcoolique, si tu veux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, Zapo en français. Donc c'est remplacer tout, c'est remplacer les voyages, c'est remplacer la liberté. Ça permettait de trouver sa petite niche où on peut se cacher, se sentir confortable. Donc ça jouait le rôle énorme de la littérature. Et la littérature étrangère aussi, parce que les livres qui ont été traduits, c'est discuté, ça faisait partie d'une certaine couche intellectuelle et culturelle où l'intelligentsia s'est baignée régulièrement. Maintenant, ça disparaît petit à petit. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se crée à la place, donc c'est pas du tout tragique, en fait.
Toi, t'étais révoltée, t'étais en colère quand t'avais, je sais pas, tu disais à 14 ans, t'avais... C'est vrai, on est toujours un peu... en rage, mais toi, tu te sentais vraiment une révolte dans la politique?
Plutôt. Plutôt, je pense que c'était beaucoup renforcé par Pierre Historica, en fait, par toutes les révélations de la presse, par toute la vérité qui s'est ouverte. Donc, et c'est sûr qu'il y avait peut-être quelque chose de très profond, de caché, qui était au fond de chacun, qui s'est manifesté. Mais c'était comme toucher ses rêves, un peu comme aider à faire quelque chose que tu trouves juste, comme ça. Oui, c'était la révolte contre le mensonge, contre la force des gens peu cultivés, des gens qui ne ressemblent pas du tout le milieu social que je respecte peut-être, et qui t'imposent des règles assez pas intelligentes.
Ça, c'est une chose qui m'a toujours frappée d'ailleurs entre nous dès qu'on s'est rencontrés, parce que t'es peut-être la première ex-soviétique que j'ai connue un peu intimement, mais... c'est alors la conscience de classe chez toi. Je ne sais pas si c'est ton éducation, mais c'est très fort.
Non, mais c'est parce que, par exemple, s'il y avait les, je sais pas, les voyages en Bulgarie pour les enfants, c'était toujours souligné. C'est que les enfants, les ouvriers qui peuvent venir, les enfants de gens qui travaillent, je sais pas, par exemple, dans les journaux, ou dans les écoles ou dans les instituts scientifiques, ils ne peuvent pas même poser les candidatures. Je me souviens qu'on ne voulait pas m'inscrire dans aucun jardin d'enfants, ça s'appelle, c'est l'équivalent de votre école maternelle, parce que justement, mes parents ne peuvent pas voler quelque chose d'utile à l'usine pour l'école maternelle. Et après, une personne a dit à mon père, mais peut-être vous pouvez nous voler un peu de papier de votre journal. Il était indigné, il ne voulait pas que je fréquente ce jardin d'enfants.
Bonne panne. T'exagères. C'est vos enfants qui font le passage justement avec les... Je ne sais pas, le milieu français ou ce n'est pas vraiment le cas?
Ну, у них много, в общем, французских друзей тоже. Вот, мой сын,
c'est vrai que mes enfants, ils ont beaucoup d'amis français, ils vont à l'école, ou d'ailleurs mon fils est un des meilleurs élèves. Mais c'est vrai qu'à la maison, on parle russe tout le temps, et même sous la menace d'une baffe si on parle en français. Et tous les mercredis, mon fils, il va à l'école, de l'école russe à Alexandre.
De la cathédrale d'Alexandre Timski.
Oui, en cathédrale d'Alexandre.
La rue, c'est ça, oui, Alexandre
Timski. Oui, où il étudie, en fait, le russe, le catéchisme orthodoxe.
Et летние лагеря, мы тоже предпочитаем, в общем, русские, а не французские.
Et on préfère aussi d'envoyer nos enfants dans les colonies de vacances russes parce que les colonies de vacances ou même l'école en France, elles n'arrivent pas à donner ce sens de discipline aux enfants. Et moi, je trouve que les enfants français, ils sont très gâtés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir sans cette notion de la discipline.
C'est rigolo parce que finalement, vous qui êtes un émigré soviétique, vous avez profité, même vous avez envie de mettre vos enfants dans ces institutions qui ont été créées par les émigrants d'avant. Mmh. Heureusement pour votre fils, il n'y a plus l'école de cadets à Versailles, sinon peut-être vous l'auriez fini par le mettre.
Нет, нет, я считаю, что как раз высшее образование нужно ему там французское, не знаю, как там
английский. Oui, je crois que mon fils, en fait, il aura besoin d'une éducation supérieure française parce que lui, il a toutes les chances de vivre et de travailler en France. Quoique de l'autre côté, ça ne me plairait pas de retourner en Russie si les choses vont mieux. Et j'aimerais bien d'être assis en ce moment à mon dacha avec un grand samovar. Mais bon, pour l'instant, ça pourrait être un peu difficile.
Je me souviens d'un monastère aux coupoles bleu nuit et or, étincelant sur la neige vierge du parc, à l'abri des rumeurs de la ville. Trolley brinque-ballant, lada pétaradante, visage fermé, où nous écoutions dans la nuit le concert d'un carillonneur déchaîné, perché tout en haut du clocher.
Vas-y, en bas. Faut passer là.
Là en bas.
Là. Je regarde là, il y a des là, puis la porte là.
D'accord, merci.
J'aime aussi me souvenir combien les gens, tous et partout, aiment encore chanter. Comment, au détour d'une rue, trois noctambules complètement ivres exécutaient avec maestria, sans une seule fausse note, un trio périlleux. Je me souviens des voix aiguës, éclatantes, des villageoises endimanchées, autour des victuailles et des bougies de la table de Noël.
Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня. Что любишь меня? Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня?
On avait plus peur que quelqu'un t'écoute. On avait plus peur qu'on a dit quelque chose et le voisin va raconter à Kedjebe. On avait plus peur que si on est différent, on sera maltraité pour ça. Et on aura 3000 réunions de consommol, des syndicats, de ce que tu veux pour te raconter qu'il faut être comme tout le monde et pas différent. C'est sûr que cette manque de liberté, il était dans l'air. C'était cette peur... Cette habitude de parler bas parce que quelqu'un peut t'attendre. Quand tu veux dire quelque chose, que par exemple, dis donc que l'économie ne va pas si bien que ça. Et là déjà, tu tournes la tête en regardant qui t'a entendu, tandis que tu n'as pas dit quelque chose de tragique. Ça, maintenant, on écrit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Et surtout, bon, mes collègues journalistes. C'est sûr que... Là, il y a l'étape de capitalisme sauvage qui amène à vendre tout ce qu'on peut vendre, tout ce qui est vendable, et d'acheter tout ce qui ressemble à la marchandise. Mais je pense que c'est pas grave, que c'est une étape quand quelqu'un cherche à comprendre la vraie valeur des choses qui l'entourent. Donc c'est assez cruel comme l'étape, c'est très 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 dur pour les vieux, c'est vrai. Mais je pense que c'est quelques pas en avant quand même pour les gens. Ils mourissent, ils grandissent, ils deviennent plus adultes parce que c'était la société... complètement infantile, si on peut dire ça, qui n'avait pas le droit de réfléchir eux-mêmes et d'analyser les choses, mais il y avait toujours le parti qui décidait à ta place. Si tu acceptes ça, bon, parfait. Si tu joues et tu fais semblant que tu acceptes ça, bon, tu as la chance de vivre tranquillement. Mais c'est difficile de se sentir divisé en deux tout le temps. Et si tu acceptes pas, c'est tragique.
Sacha, il y a des choses qui vous manquent de votre pays natal?
В смысле, то, что у меня было то, там в стране, то, что работы.
Oui, c'est le travail.
Et Maxime, vous avez envie qu'il grandisse en comme un français ou comme un russe, ou comme les deux?
Я хочу, чтобы он вырос как русский, но во Франции.
Moi, j'aimerais bien que mon fils grandisse plutôt comme un russe, parce que moi, au fond de moi-même, je voulais jamais partir à l'étranger, surtout à l'époque soviétique, quand les touristes soviétiques partaient à l'étranger, c'était vraiment ridicule. Ils avaient 50 roubles dans la poche et ils ne pouvaient pas même s'acheter un verre de Fanta ou de Coca-Cola ou prendre un café et regarder toute cette belle vie qui défilait devant eux sans pouvoir y prendre part. Et la seule chose qui me plaît vraiment dans ce pays, qui me plaît en France, c'est que les gens sont libres. Et ils sont libres et tranquilles. Ils peuvent prendre leur temps pour voir toutes les belles choses qui se trouvent autour d'eux.
Avant, pour moi, c'était pratiquement impossible parce que comme la majorité des citoyens soviétiques, on avait le seul but, c'est de survivre. Et quand on essaye de survivre, on n'a pas de temps de s'occuper d'autre chose, de penser à autre chose, de voir autre chose.
Et entre l'administration soviétique puis ex-soviétique et l'administration française, tu vois une grosse différence?
Pas beaucoup, non. À part que vous avez beaucoup, beaucoup de papiers. Et chaque fois qu'on vient vers n'importe quel guichet, on a déjà plein de papiers et on ressort avec encore 1000 papiers. Et tout est documentalisé. Chez moi, il n'y a pas de cette culture-là. Mais c'est sûr que les procédures administratives sont aussi longues que chez moi. Et je pense que les bureaucrates du monde entier, ils sont beaucoup plus ensemble que les prolétariat, peut-être. Le prolétaire, oui.
Toi, il t'a fallu combien pour avoir un permis de séjour un peu long ici?
Oh, je pense que plus qu'un an et demi avec le droit de travail. C'était très, très. D'ailleurs, tout à fait inattendu. Personne ne m'a averti qu'il y a toutes ces limitations pour les gens, pour travailler et tout ça. Et c'était assez bizarre quand on t'envoie, par exemple, 3 mois après le mariage chez toi pour voir est-ce que tu es bien digne de vivre ici. C'est sûr que. Ça étonne, quoi. Bon, moi, quand même, j'étais renvoyée à la maison. Et après, heureusement, l'État français a décidé que j'ai le droit d'y être. Donc, m'a permis, gracieusement, de me réunir avec mon mari. Mais non, avec les visas, avec le droit de séjour, c'est sûr que j'étais étonnée parce que chez nous, les gens, les étrangers, ils viennent avec qui ils veulent, avec une femme ou pas femme. Ils vivent ensemble, ils repartent quand ils veulent. Bon, il faut s'enregistrer, il faut avoir un visa, il y a les formalités, mais c'est assez facile en fait, et c'est assez abordable. Et là, c'est toute une histoire.
C'est une chanson d'un voleur qui chante, qui raconte sa vie un petit peu.
D'accord.
Et les musiques, je ne sais pas. Les musiques des populaires. Folklore.
Краюху хлеба я украл, называли меня вором. Я рос в канаве и грязи, покрытый весь позором.
Les Miettes de l'Empire, avec Sacha, Alla Lazareva, Vitaly Zuzin, Cyril Rubinsky, Galina Perchetcheva, Olga Belova et les artistes du théâtre russe Symposion.
Excusez-moi, madame, vous parlez français?
Oui.
Vous êtes venu visiter quelqu'un?
Ah oui, il y a quelques-uns là ici, oui.
Alors qui est-ce que vous avez enterré ici à...
Là-bas, un petit grand-père, mon ex-mari, mon ex-belle-mère. C'est déjà pas mal. Hein.
Et vous êtes d'origine russe vous-même?
Non, je suis française.
Et eux, ils l'étaient?
Ah non, c'est des Français tous. Ils ne sont pas russes.
Ils ne sont pas russes?
Non. Non, c'est pas parce qu'ils sont là que...
Mais ils ont été enterrés selon la foi orthodoxe, quand même.
Pas du tout, non, l'église.
Ça, c'est un morceau du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois qui est pas réservé.
Il y a un peu
Russes.
Tout le monde, non, pas du tout. Non, le petit grand-père est là-bas, il est français, il est catholique. Voilà.
Mais quand c'est la Pâque orthodoxe et que tout le monde vient festoyer sur les tombes des défunts russes,
ben, vous savez. Ça fait rien, on est bienvenus, nous, une fois à 11h le soir, quand il y a eu les 50 ans ou les 60 ans, il y avait la messe à 11h et puis tout le monde venait mettre des bougies sur les tombes.
Mais tout le monde...
Et vous êtes... Ah, les Russes, bien sûr.
Et vous êtes venus pour
voir?
Bah
oui, avec d'autres personnes qui ne sont pas russes.
Et c'était beau?
Bah oui, bah c'est comme ça on a profité pour aller voir les autres.
Loin de Moscou, une toute petite patrie. Irène Berilovitch, Véronique Lamandour, Pierre Comon, Michel Bertin, Cécile Dume, Olivier Dupré, Éric Boisset. Avenue Magnétique. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 juillet 1999. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.